monde protestant, l'une des trois expressions majeures du christianisme. Elle s'enracine dans le christianisme des origines, c'est-à-dire que l'orthodoxie ne commence pas en 1054 ou en 1204, mais je dirais lors de la Pentecôte. Et donc elle s'appelait autrefois, et elle est attestée dans des documents relativement récents du XIXe siècle, Église catholique d'Orient. Une expression intéressante. Catholique ne veut évidemment pas dire catholique romaine, mais veut dire l'Église en plénitude de la région de l'Orient. J'entends universelle, alors universelle en partie, mais surtout l'Église en plénitude. C'est-à-dire c'est une universalité qualitative, mais évidemment qui inclut aussi l'aspect géographique. Et donc cette Église orthodoxe s'est développée surtout au Proche-Orient et dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Par la suite, des missions importantes l'ont implantée jusqu'au Nord-Pacifique et en Afrique noire. De plus, les grandes migrations économiques et politiques du XXe siècle l'ont rendue présente sur toute la planète, Occident compris, comme en témoigne cet institut où vous êtes présent et qui remonte à 1925. On va donc fêter bientôt le centenaire de la fondation de cet institut Saint-Serge. Alors il est difficile de définir l'orthodoxie dans une optique, je dirais, étroitement confessionnelle. D'abord parce que pendant un millénaire, l'Église catholique d'Orient et l'Église romaine étaient en communion. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de distinction entre les deux églises, sinon purement géographique, et malgré même les tensions. La division s'est introduite, je dirais, progressivement, d'abord à travers un estrangement culturel, et puis avec un certain nombre de crises, comme le fameux schisme romain de 1054, puis la funeste quatrième croisade de 1204, sur laquelle je reviendrai. Mais les relations entre les deux églises, même conflictuelles, n'ont jamais été totalement coupées. Et elles se sont restaurées de manière, je dirais, très positive depuis les années 60. L'appartenance à l'orthodoxie ne se définit pas simplement à travers une confession de référence, comme dans le monde protestant, ou la référence à un grand concile, comme dans le monde catholique, référence à Vatican II, ni par une culture, mais je dirais dans le partage ecclésial de la vie chrétienne expérimentée dans l'Écriture et les sacrements, autrement dit la liturgie, dans la fidélité à la tradition des apôtres et des pères. Donc cette notion de tradition est fondamentale pour l'orthodoxie. Au plus fort des tensions entre chrétiens, l'Église orthodoxe ne s'est jamais définie contre une autre tradition. Comme le soulignait un grand théologien russe du XXe siècle, le père Serge Bulgakov, qui fut ici le premier grand théologien, dans son livre « L'orthodoxie », je cite, « L'orthodoxie est l'Église du Christ sur la terre. L'Église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle avec le Christ et en Christ, mue par le Saint-Esprit. » Fin de citation. Vous voyez que cette définition est aux antipodes d'une vision purement, je dirais, sociologique ou journalistique. C'est une définition existentielle. Et on reconnaîtra, bien sûr, que dans cette définition, on peut très bien appartenir à la limite à une autre tradition que l'orthodoxie stricto sensu. Et donc, elle témoigne, cette définition, je dirais, du sens catholique de l'orthodoxie, de l'ouverture et de la porosité aussi des barrières confessionnelles interchrétiennes. L'orthodoxie se présente concrètement comme la communion entre 14 églises territoriales indépendantes, dites autocéphales, c'est-à-dire ayant chacune sa tête, un évêque, qui sera donc un primat, et qui sera soit un métropolite, soit un patriarche, soit un archevêque. Et donc ces 14 églises indépendantes partagent la même foi chrétienne, la même tradition et les mêmes sacrements. Cette église est présente sur tous les continents, même si elle se trouve en majorité en Russie et en Europe de l'Est. Avec les grandes migrations du XIXe et surtout du XXe siècle, sous la pression des guerres et des persécutions, révolution communiste, effondrement de la Grèce d'Asie mineure en 1920, persécution, drame palestinien et libanais, mais aussi sous l'effet des difficultés économiques, exode vers le Nouveau Monde et l'Australie, puis vers l'Europe occidentale, le christianisme orthodoxe a perdu son caractère géographique proprement oriental. Au total, on trouve environ 230 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde. Vous avez le plan de mon exposé. Je propose donc une présentation structurée en cinq parties. Les repères historiques, l'acquis des sept conciles écuméniques, les grandes affirmations doctrinales, quelques aspects de la spiritualité du christianisme orthodoxe, et je terminerai par la dynamique de l'orthodoxie dans le monde et en France. Le premier point est consacré aux repères historiques. En effet, une bonne connaissance de l'orthodoxie exige un ancrage dans l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, on comprend mal le monde orthodoxe. Alors, je vais dire les choses évidemment de manière très succincte. L'histoire de l'orthodoxie offre un parcours complexe et contrasté. L'époque fondatrice de l'Église orthodoxe est celle du premier millénaire, au cours duquel vivaient les pères de l'Église, c'est-à-dire les grands témoins de la foi chrétienne, et durant lequel ont eu lieu les sept grands conciles écuméniques communs aux églises d'Occident et de l'Orient byzantin. Ces conciles sont si importants qu'on appelle parfois l'Église orthodoxe l'Église des sept conciles. C'est pourquoi donc il faut rappeler la dimension fondatrice et irrémissible des décisions de ces conciles qui ont défendu le culte du Dieu Trinité et la pleine divino-humanité du Christ. J'y reviens donc dans le deuxième point. Byzance représente la matrice historique de l'Église orthodoxe. Alors vous avez sur vos cartes Constantinople, en haut à droite de la carte, donc, qui donne sur la mer Noire, avec l'indication Sainte-Sophie. Byzance, c'est donc le nom donné à l'État et à la culture de l'Empire romain d'Orient au Moyen-Âge, après la fondation en 330 par l'empereur Constantin de la Nouvelle Rome, Constantinople, sur les lieux d'une petite colonie grecque appelée Byzance, dans un endroit tout à fait stratégique, situé à la jonction entre l'Europe et l'Asie. L'État et les habitants de l'Empire dit byzantin, en fait, ne s'appelaient pas byzantins, comme vous savez peut-être, mais se considéraient comme romains, à juste titre, puisque c'était la Nouvelle Rome. Et d'ailleurs, au-delà de la chute de l'Empire byzantin, les chrétiens locaux, donc les orthodoxes d'origine byzantine, ont continué à être appelés romains par les Turcs et les Arabes, puisque encore aujourd'hui, ils s'appellent les Roums. Les Roums, c'est la déformation du romain. Donc Byzance était la continuation de l'État romain antique et jusqu'au 7e siècle, y furent maintenues les structures de la civilisation romaine tardive, une civilisation urbaine, construite autour de grandes cités, à population multiethnique. Et après la conquête arabe sous l'empereur Héraclius au 7e siècle, Byzance est devenue de facto un empire grec. C'est-à-dire qu'on a abandonné la langue latine pour les actes officiels et on a imposé progressivement le grec, y compris pour les actes officiels, alors qu'avant on était dans un bilinguisme.
Quelle année ?
C'est pas une année précise, mais grosso modo, c'est au 7e, 8e siècle. Au 9e siècle, on constate une période de stagnation culturelle marquée par la querelle des images, j'y reviendrai dans un instant. C'est sous la dynastie dite macédonienne, parce que ses empereurs étaient originaires de la province de Macédoine, donc du 9e au 11e siècle, que le pouvoir politique byzantin a atteint son apogée. Le christianisme et la culture byzantine sont alors diffusés auprès des Slaves, vous connaissez les fameuses missions de Cyril et Méthode, et auprès des peuples voisins de la mer Noire et du Caucase, comme le fameux peuple Alain en Cisco-Casie. Plus tard, au XIIIe siècle, à Pékin, la garde personnelle de l'empereur mongol Kubilai comptera 30 000 Alains orthodoxes. Une période de stabilité du XIe au XIIIe siècle est celle de la dynastie des Komnène, mais on constate face aux dangers turcs une féodalisation croissante de la société byzantine. Et cela explique en partie le drame de 1204, lorsque la quatrième croisade, menée et détournée par les Vénitiens, aboutit à Constantinople et prend la grande cité, qui était la cité la plus prospère, on peut dire, du christianisme médiéval. La ville est brûlée et pillée. Elle sera occupée par les Latins pendant une cinquantaine d'années, ce qui marque le schisme entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. La cité sera reprise par les Byzantins, mais l'Empire est malade et il ne survivra pas deux siècles. Cette période d'écroulement politique sous la dynastie des paléologues est l'une des plus riches cependant en théologie, en littérature et dans les arts. Mais les Ottomans y mettent fin brutalement le 29 mai 1453 par la prise de Constantinople. Puis la Grèce et les Balkans sont peu à peu conquis par le sultan Mehmed II. La chute de Constantinople, cité romaine qui avait tenu tous les sièges pendant 1000 ans, inaugure pour les chrétiens une épreuve de 4 siècles dont les conséquences marquent l'histoire de l'orthodoxie, notamment cette séparation entre les Slaves du Nord et les orthodoxes des Balkans, d'Asie mineure et du Proche-Orient. Du 15e au début du 19e siècle, la communauté des chrétiens des Balkans et d'Asie mineure sont englobés dans l'Empire ottoman, un empire musulman, et ils ont un statut de Rum Millet, littéralement la nation des Romains, et c'est l'Église qui va sauver la langue et la culture de ces nations chrétiennes, par des écoles secrètes, notamment tenues par des moines. C'est pourquoi, pour les orthodoxes des Balkans, la nation et l'Église sont demeurées quasiment inséparables. On observe un renouveau doctrinal et patristique à partir du XVIIe siècle. Ce renouveau se double bientôt d'un réveil spirituel. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion d'un évêque et du moine Nicodème Lagiorite, c'est-à-dire du mot Athos, est publiée une grande anthologie de textes chrétiens, mystiques et ascétiques, la Philokalie, littéralement « amour de la beauté », suivi du développement d'une paternité charismatique. Ce renouveau a cheminé de l'Athos vers la Grèce, mais aussi vers le nord, c'est-à-dire vers la Moldavie et la Russie, durant tout le XIXe siècle. Les Russes et les Slaves du Nord, baptisés par les Byzantins en Crimée en 988, ont suivi, eux, un autre chemin que les Balkans. Celui, je dirais pour résumer en un mot, d'une instrumentalisation progressive de l'Église par l'État russe. La chute de l'Empire byzantin profitait au monde russe et en particulier à Moscou. En effet, après le sac de Kiev, qui était la capitale de la Russie, donc la métropole où se trouvait l'évêque pour tous les Russes, qui était nommé par l'Église byzantine, donc de Constantinople, après le sac de Kiev par les Mongols en 1237, l'évêque métropolite de Kiev part s'établir loin au nord, à Vladimir, une petite ville située à 200 km à l'est de Moscou, donc à environ 900 km de Kiev au nord. Et puis il s'installe un peu plus tard, au XIVe siècle, à Moscou, la résidence des princes de Moscovie. Le déclin de l'Empire byzantin permet à l'Église russe de s'émanciper. En 1448, le grand prince de Moscou désigne lui-même l'archevêque de Kiev et de Moscou. 10 ans plus tard, le synode, c'est-à-dire l'assemblée qui entoure le métropolite, l'assemblée d'évêques, le synode érige le fait en droit. L'Église russe se déclare autocéphale, c'est-à-dire qu'elle élit elle-même son primat, alors qu'avant il était nommé par l'Église dont elle relevait, c'est-à-dire l'Église de Constantinople. Et donc elle proclame Jonas métropolite de Kiev et de toutes les terres russes. L'idée énoncée un peu après, vers 1505, par le moine Philothée de Pskov, est en marche. Je cite « Tous les empires chrétiens ont péri, ils ont fait place à l'empire de notre seul maître, l'empire de Russie. » Deux Roms ont succombé, la troisième est debout, et il n'y en aura pas de quatrième. Fin de citation, toujours actuelle. Un parti de moines ermites, surnommés les non-acquéreurs, avec à sa tête Nil de la Sora, un grand ascète venu du mont Athos, rejette l'inféodation de l'Église à l'Empire et plaide pour une Église pauvre, une Église contemplative et libre. Mais finalement, c'est le camp contraire des moines acquéreurs qui entendent développer les richesses autour de monastères cénobitiques pour mieux assurer finalement le service des pauvres. Donc c'est une autre vision qui est défendue par Joseph de Volotsk qui va finir par triompher. Après le couronnement d'Ivan IV le Terrible comme tsar de toutes les Russies en 1540, l'Église est mise au pas. L'Empire s'impose à elle de manière brutale. Le patriarche Philippe, qui a été amené donc sur la responsabilité patriarcale par son ami Ivan IV, son ami de jeunesse, dénonce la cruauté du tsar et il est finalement martyrisé. Plus tard, en 1589, le métropolite Job de Moscou devient patriarche de Russie grâce à Boris Godounov, beau-frère du tsar Fédor Ier, qui était le fils d'Ivan IV, et aussi avec, ce qui est important, la bénédiction du patriarche de Constantinople, Jérémie II, venu pour la circonstance. Précisons que les territoires correspondants à l'Ukraine et à la Biélorussie actuelles font alors partie, non pas de la Moscovie, mais du grand royaume de Pologne-Lituanie. Royaume immense qui couvre tous les territoires, je dirais, du nord-est de l'Europe, juste avant la Russie, juste avant les limites de la Russie actuelle. Et donc c'est important de le noter pour revenir par la suite sur les paramètres de la crise actuelle entre Constantinople et Moscou, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces territoires, correspondant à l'Ukraine actuelle et à la Biélorussie actuelle, ne seront intégrés à l'Empire russe que très progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe, lors du partage final de la Pologne. Mais au plan religieux, il en va autrement. Ces territoires éloignés de la Moscovie dépendent toujours de Constantinople, contrairement à la Moscovie, qui est donc devenue autocéphale. Et en 1686, le patriarche Denis IV de Constantinople envoie au patriarche de Moscou une charte qui confie à sa tutelle la métropole de Kiev. Métropole de Kiev, également appelée Petite Russie, par opposition avec la Grande Russie, qui est la Russie du Nord. En 1721, le tsar Pierre le Grand proclame officiellement l'Empire russe et, influencé par le modèle de l'État luthérien, il supprime le patriarcat de Moscou. Il remplace le synode des évêques, synode qui entourait le patriarche, comme dans toutes les églises autocéphales. Il le remplace par un conseil à minorité épiscopale dont les membres sont désignés par le tsar lui-même et que préside un haut fonctionnaire civil, le procureur général. Cette institution va durer jusqu'en 1917, lorsqu'un grand concile de renouveau rétablit le patriarcat. Mais le concile cesse brutalement ses travaux avec la révolution bolchevique et ses conséquences en 1918. Le pays va subir de 1922 à 1937 la plus terrible persécution jamais connue par le christianisme. Non seulement des centaines d'évêques, mais des milliers de prêtres, diacres, moines, et des centaines de milliers de laïcs sont massacrés. Selon l'Institut Saint-Icône de Moscou, le nombre des fidèles tués en Russie pour leur foi serait compris entre 500 000 et 1 million. Par la suite, ces persécutions seront plus insidieuses. La liberté religieuse ne reviendra vraiment qu'à partir de 1991. Voilà pour les repères historiques, évidemment extrêmement brefs. On pourra y revenir après dans les questions. Je passe tout de suite à l'acquis des sept conciles écuméniques. Vous avez la liste des sept grands conciles écuméniques qui est rappelée. Les deux premiers conciles sont décisifs pour le dogme trinitaire. Ils précisent que le Dieu des chrétiens est unique car une seule nature et une seule puissance. Mais il est trine, c'est-à-dire qu'il est une communion éternelle de trois personnes dont l'une des trois, le Père, est la source d'existence, des deux autres, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, ces vérités concernant le Dieu trinitaire sont précisées lors de deux conciles successifs. En 325, le concile de Nicée I, qui précise la divinité du Christ face à l'hérésie d'un certain Arius d'Alexandrie. En 381, le deuxième concile écuménique de Constantinople I, qui proclame cette fois la divinité du Saint-Esprit face aux contestations d'un certain Macédonius, et puis d'autres contestataires d'Égypte, appelés les Tropiques. Donc la doctrine du Dieu trinitaire est pleinement reconnue et attestée, conformément à la finale de l'évangile de Matthieu, qui souligne « Allez dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Les cinq conciles écuméniques suivants sont des conciles christologiques, c'est-à-dire qu'ils concernent le mystère du Christ, le mystère de sa divino-humanité. Ils précisent donc que le Christ est de double nature, mais qu'il est une seule et unique personne, et non deux personnes, une personne humaine, une personne divine, ce qui attenterait à son unité profonde. Donc, nous avons en premier lieu le concile d'Éphèse, qui est le troisième concile écuménique. Et à cette occasion, une partie des chrétiens orientaux se sépare de l'Église indivise. Ce sont les chrétiens assyriens ou syriens orientaux. En 451, c'est peut-être le concile le plus important, en tout cas au plan christologique, c'est le fameux concile de Chalcédoine. Et pour des raisons en partie politiques et culturelles, de nombreuses églises orientales non hellénophones, à savoir les Coptes, les Syriens jacobites, les Arméniens, se séparent du reste de la communion ecclésiale, c'est-à-dire des églises grecques et latines, qui ont donné l'Église orthodoxe et l'Église catholique, et les protestants par la suite. Ce sont donc ces églises qui se séparent des églises dites pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire qu'elles ont accueilli les conciles écuméniques avant Chalcédoine, donc pré-chalcédoniennes, ou encore on les appelle aussi aujourd'hui, ou elles s'appellent orthodoxes orientales. Donc lorsqu'on entend orthodoxes orientaux, il s'agit de ces églises qui n'ont pas accepté Chalcédoine. Aujourd'hui, après, je dirais, une quarantaine d'années de dialogue intense mené entre l'orthodoxie et ces églises, on s'aperçoit qu'il s'agissait en réalité d'un malentendu terminologique et que profondément, elles sont en accord avec la doctrine orthodoxe. Mais il y a aussi un événement important, une décision je dirais canonique importante qui est prise au concile de Chalcédoine, c'est que ce concile promeut l'évêque de Constantinople comme évêque de la capitale de l'Empire au second rang d'honneur après l'évêque de Rome. Jusque-là, il y avait trois grandes églises qui polarisaient la communion chrétienne dans le monde, et c'est un monde essentiellement méditerranéen. Il y avait, non pas Jérusalem comme on croit, parce que Jérusalem avait été rasée par les Romains, comme vous le savez, mais il y avait, vous pouvez regarder vos cartes, Antioche et Alexandrie, et en Occident, Rome. C'était vraiment les trois grandes cités. Et à partir du concile de Chalcédoine en 451, eh bien c'est l'affirmation par le concile écuménique, de Constantinople comme deuxième pôle de la communion catholique. Et donc ça, évidemment, c'est fondamental, parce que pour tout l'Orient chrétien, c'est Constantinople qui va acquérir la première place, juste après, encore une fois, celle de Rome. Et donc nous avons cinq grands pôles de la communion au VIe siècle. On comparera ces cinq grands pôles aux cinq sens, ou aux cinq doigts de la main, pour montrer qu'il y a une harmonie quasiment providentielle. Nous avons ensuite le concile de Constantinople II, ou 5e concile écuménique, en 553, qui rappelle le mystère du Dieu crucifié et souligne que la personne qui a assumé les deux natures divines et humaines était le Fils éternel de Dieu. En 681 a lieu le 6e concile écuménique de Constantinople III, qui affirme, contre les séquelles du monophysisme qui avait été condamné au concile de Chalcédoine, qui réaffirme que le Christ possédait bien deux natures, mais aussi deux volontés, c'est-à-dire une volonté correspondant à chacune des natures, et que sa volonté humaine était librement soumise à sa volonté divine, qui était une volonté de salut. Et enfin, le concile de Nicée II, qui est le 7e concile écuménique, et qui définit, contre les briseurs d'images ou d'icônes, les iconoclastes, la doctrine orthodoxe des images représentant le Christ ou les saints. Le Verbe de Dieu s'est fait pleinement homme, dit le concile, et par conséquent, puisqu'il s'est fait homme, il doit être représenté. Et il en est de même pour les saints. Donc voilà, si vous voulez, l'acquis des sept conciles écuméniques, sans entrer davantage dans le détail, mais je pourrais répondre éventuellement aux questions, si vous voulez plus de précision. Maintenant, nous passons aux grandes affirmations doctrinales de l'orthodoxie. Je dirais que, par rapport à l'Église romaine, par exemple, l'orthodoxie est une Église peu dogmatique. Historiquement, elle n'a pas proclamé de dogme au-delà des sept grands conciles que nous venons de retracer. Pour le reste, elle a explicité les conséquences de ces conciles au fil des siècles à travers des clarifications doctrinales qui ont donné lieu à des réunions de conciles, mais qui n'étaient pas considérées comme écuméniques, c'est-à-dire comme rassemblant des représentants de toutes les églises, dans la mesure où, précisément, l'orthodoxie avait conscience qu'il y avait une séparation et que donc il était difficile de convoquer, pour des raisons historiques, les chrétiens occidentaux à ces conciles. Mais cela tient aussi, je dirais, à l'éthos orthodoxe, qui est une vision du mystère plus que, je dirais, une démarche d'explicitation rationnelle de la foi. Et donc on souligne davantage le mystère divin qui échappe à la raison humaine. C'est ce qu'on appelle la théologie négative ou apophatique. Et on évite de spéculer rationnellement sur la révélation, comme cela sera le cas en Occident à partir de la fin du XIIe et surtout au XIIIe siècle, à l'âge de la scolastique. Les conciles doctrinaux donc se réunissent toujours pour répondre aux défis que pose à la conscience ecclésiale telle ou telle doctrine jugée irrecevable. Un souci constant de l'orthodoxie est d'empêcher que la doctrine de l'Église et la vie chrétienne se séparent l'une de l'autre. Les dogmes ne constituent pas une idéologie, mais ils entendent faire référence à l'expérience profonde de l'Église. D'autre part, ils alimentent la liturgie et ils servent de soutien aux fidèles pour l'éclairer dans sa vie intérieure, notamment à travers l'hymnographie, qui est de contenu extrêmement dense, de contenu, je dirais, doctrinal. Je vous en donnerai un échantillon tout à l'heure. Entre théologie et vie spirituelle, il y a une distinction, mais non pas séparation. On peut parler donc d'une interaction entre la loi de la foi et la loi de la prière, la lex credendi, la lex orandi. Pour les pères de l'Église d'Orient, le Christ, confessé à la fois comme Fils éternel de Dieu et comme homme maximum, le second Adam, comme dit saint Paul, porte en lui le cosmos entier et toute l'humanité. Il représente une existence personnelle absolue, c'est-à-dire en communion avec tout et avec tous. Il n'a pas créé le mal et en s'incarnant, il l'a affronté de l'intérieur pour offrir aux hommes les voies de la vie éternelle. Le Christ révèle que le mystère de Dieu est en réalité un abîme paternel d'amour et de liberté dont jaillissent conjointement le Fils qui est la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui est donateur de vie. Et dans cette optique, Dieu est tellement un qu'il porte en lui, sans séparation, le mystère de l'autre. Il est tout entier communion. Il est trinité, c'est-à-dire en même temps unité absolue et diversité non moins absolue. Le Dieu unique en trois personnes est donc le modèle infini de l'homme unique en une multitude de personnes. Aussi, l'orthodoxie est-elle sensible au mystère de la personne révélée dans l'expérience de la communion humaine, une communion qui n'est ni fusion ni uniformisation, à l'exemple même du mystère trinitaire. Cette communion se présente dans l'Église inséparablement au plan horizontal entre les êtres humains et au plan vertical entre l'humanité et Dieu le Père par le Fils dans l'Esprit-Saint. Pour l'orthodoxie, Dieu est à la fois tout entier inconnaissable dans son essence ultime, donc totalement transcendant, mais en même temps, c'est ça le paradoxe, il est participable dans sa vie parce qu'il a choisi de se révéler et de se donner dans sa grâce. Ce sont les énergies divines, la lumière du royaume céleste qui est offerte dans l'Église à travers les sacrements et qui font de l'univers, dans cette vision des pères, un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Ces énergies divines, révélées lors de la transfiguration du Christ, au Tabor, sont considérées comme remplissant toute chose. En d'autres termes, la nature dans cette vision n'est accomplie que pénétrée par la grâce. Et le rôle de chaque être humain, donc sa vocation, dans la création, est vu comme celui d'un prêtre chargé de ramener et d'offrir l'univers au Créateur. C'est la vocation de tout baptisé. L'être humain, créé à l'image de Dieu et invité à acquérir une ressemblance, participation avec Dieu, est appelé à une existence réellement personnelle, c'est-à-dire à porter en lui l'humanité et le monde dans des relations de communion. Ce sens de la personne explique pourquoi, dans le domaine éthique, sexualité, drogue, bioéthique, etc., l'Église orthodoxe est assez réticente en général à produire des textes de morale objective qui donnent des prescriptions. Elle s'efforce surtout de préciser le sens à la lumière de l'Évangile, de montrer les voies de la responsabilité et de suggérer le respect de la vie en laissant in fine les décisions à la conscience de chacun. Je passe ainsi au quatrième point, quelques aspects de la spiritualité du christianisme orthodoxe. Le premier point sur lequel je m'arrête, parce qu'il est le plus important, c'est la liturgie. Le christianisme orthodoxe est tout entier centré sur la foi en la résurrection du Christ, vainqueur de la mort et du mal. L'émerveillement de la résurrection, qui est vécu de façon intense à Pâques, se transmet à chaque dimanche, considéré comme premier et huitième jour, jour eucharistique par excellence. La liturgie eucharistique, qui correspond donc à la messe latine, est considérée comme la synthèse de toute la réflexion théologique et de l'expérience spirituelle. D'ailleurs, les textes de la liturgie sont tissés de références scripturaires. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Le mot liturgie signifie œuvre du peuple. La liturgie, autrement dit, est la Weltschauung de l'orthodoxie. C'est avant tout par la liturgie qu'un orthodoxe éprouve son appartenance à l'Église. Autour du mystère des mystères qu'est l'Eucharistie, où tout est fait par l'Esprit-Saint à la demande du prêtre et du peuple rassemblés, ce qu'on appelle l'épiclèse, se dispose une riche hymnographie qui insère les lectures bibliques dans un commentaire doctrinal et spirituel. Ainsi, la théologie des pères et des conciles se transforme en poésie et en musique. Tout est chanté ou psalmodié sans aucune intervention d'instrument, la musique restant au service de la parole et en utilisant un ensemble de 8 tons anciens qui sont issus à la fois des modes de l'Antiquité gréco-romaine et de l'office synagogal. Les textes très poétiques sont tissés de paradoxes qui développent la double antinomie fondamentale du Dieu au-delà de Dieu et du Dieu qui, par amour des hommes, s'est laissé crucifier. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, c'est ça l'antinomie. Un seul exemple, une antienne du Vendredi Saint, hein, qui est donc chantée pour l'un des offices du Vendredi Saint. Aujourd'hui est suspendu à l'arbre de la croix celui qui a suspendu la terre sur les eaux. Donc allusion à la création. Il est couronné d'épines, lui le roi des anges. Il est revêtu d'une pourpre dérisoire, celui qui revêt le ciel de nuées. Il est giflé, celui qui dans le Jourdain a délivré Adam. Allusion au baptême par Jean-Baptiste, qui est le début donc du salut, puisque tout chrétien est appelé donc à passer par le baptême, qui veut dire mort, résurrection dans la croix, résurrection du Christ. Il est cloué, lui, l'époux de l'Église. Il est percé de la lance, lui, le fils de la Vierge. Nous nous prosternons devant ta passion, ô Christ. Révèle-nous aussi ta glorieuse résurrection. La liturgie n'est pas seulement l'annonce de la parole de Dieu, mais c'est une expérience anticipée du royaume de Dieu, par la médiation d'une beauté, je dirais, paisible et lumineuse. Le ciel sur la terre avait dit au Xe siècle les envoyés russes qui cherchaient à quelle religion se convertir et qui avaient rencontré donc des représentants du judaïsme, de l'Église latine et donc de l'Église byzantine, et qui revinrent de Sainte-Sophie en disant « Nous ne savions plus si nous étions sur la terre ou au ciel » à propos de la liturgie de Sainte-Sophie. L'orthodoxie connaît, outre le sacrement central de l'Eucharistie, comme sacrement majeur le baptême, qui a lieu toujours par immersion, la chrismation, qui correspond à la confirmation latine, donc le sacrement de l'Esprit-Saint, et qui a lieu toujours, comme dans l'Antiquité, lors du baptême. Le pardon des péchés, pardon des fautes, qui est donc le sacrement de la confession. Le mariage, une confession d'ailleurs qui n'a pas lieu dans un confessionnal, mais de manière très simple dans un coin de l'Église, et en général dans les offices, au début de la liturgie ou dans les offices de vêpres. Le mariage, qui est, pourrait-on dire, le sacrement de l'amour. L'ordination pour le clergé. Et là, je précise que des hommes mariés peuvent être ordonnés diacre ou prêtre. Et enfin, l'onction des malades. Tous ces sacrements trouvent leur achèvement dans l'Eucharistie. Donc, un sacrement absolument central, l'Eucharistie, l'autre sacrement fondamental étant le baptême. L'orthodoxie considère que le mariage est unique et éternel. Elle ne favorise donc pas, tout en le permettant, le remariage des veufs. Elle permet aussi le divorce uniquement par compassion et considération des personnes. Et elle bénit, non sans prière de pénitence, le remariage des divorcés. Alors j'évoque maintenant un point important, je dirais, de la tradition ecclésiale orthodoxe, qui est le rayonnement des icônes. La vénération des images a été justifiée par le 7e concile œcuménique de Nicée II, en 787, dont j'ai parlé, parce que avec l'incarnation, qui met fin aux interdits de l'Ancien Testament, Dieu s'est montré dans un visage d'homme. Et donc, l'icône est censée témoigner de cette réalité de l'homme rempli de la présence divine, qui est donc à la fois la deuxième personne de la Trinité et en même temps le second Adam, c'est-à-dire celui qui récapitule toute la création de l'humanité. L'icône célèbre d'André Roubloff, dont vous avez une représentation ici, représente symboliquement les trois anges qui ont accueilli, vous savez, Abraham et Sarah, comme c'est raconté dans le livre de la Genèse, près du chêne de Mambré. Et cet André Roubloff, qui était un très grand iconographe russe au XVe siècle, a pris une décision extraordinaire. Il a supprimé les personnages de ce récit, c'est-à-dire Abraham et Sarah, qui, dans l'icône traditionnelle, sont représentés devant les anges, ont tout simplement disparu. Et il s'est concentré sur les trois anges, comme représentant le mouvement d'amour qui unifie et diversifie la Trinité. On sait qu'historiquement, l'icône s'est développée surtout au 5e, 6e siècle. Et puis, quand le symbole qui désignait du dehors la divinité ou la sainteté d'une personne a été associé au visage, elle a fait surgir une présence personnelle reliée à son modèle, non pas par la substance, mais par la ressemblance. Autrement dit, il n'y a pas de source visible de lumière, ni d'ombre, ni point de fuite dans l'icône. Tout est intérieurement ensoleillé par la lumière divine. C'est cela qui est représenté. Il y a aussi une anthropologie particulière, c'est-à-dire que le corps est allongé à l'extrême, il n'est pas dans des proportions naturelles, et il tend vers le visage qui lui-même se concentre dans le regard. On n'a pas, par exemple, de personnage de profil sur une icône. On est toujours avec des personnages de face qui regardent vers l'orant. À partir du XVe siècle, pour montrer que le temple chrétien reprend et accomplit celui de l'Ancien Testament, dans les églises, une cloison couverte d'icônes, l'iconostase, a séparé et relié le sanctuaire où se trouve l'autel et la nef. Et donc cette cloison était couverte d'icônes avec, en général, à gauche, l'icône de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à droite, l'icône du Christ. L'art de l'icône, en principe sobre et retenu, est un art liturgique qui obéit à des règles strictes. C'est une tradition très encadrée. Cela n'a pas empêché la créativité des artistes, ni de véritables innovations, toujours à condition qu'elles expriment la divino-humanité. Après la crise iconoclaste des 8e, 9e siècles, les icônes, les fresques et les mosaïques sont plutôt hiératiques. Mais après la renaissance des paléologues au XIVe siècle, dont je vous ai parlé, l'humain s'affirme beaucoup. Après la chute de Constantinople, la Grèce subit l'influence de la Renaissance. Donc, et puis, je dirais qu'il y a une influence dans les deux sens, c'est-à-dire que on a une influence manifeste de l'art byzantin à travers l'art italien. En témoignent les basiliques de Ravenne, Venise, Montréal en Sicile, etc. Et inversement, dans l'occupation d'un certain nombre d'îles grecques de la Méditerranée par les Vénitiens, on a des influences latines dans la manière de faire les icônes. Donc il y a des équilibres artistiques très intéressants dans les représentations des icônes. Petit à petit, malgré tout, la tradition iconographique s'est essoufflée, notamment au XIXe siècle, en amenant de l'Occident un flot d'images pieuses. Mais dans les années 1930, une génération de jeunes peintres grecs, marqués par l'avant-garde, a redécouvert l'art byzantin. L'art sacré s'en est trouvé revivifié. Et de la même façon, après une décadence tardive dans le monde russe, l'art de l'icône a rené dans la diaspora russe. Ici, par exemple, dans la diaspora, dans les années 20, avec les icônes de Krug et d'Ouspenski. L'influence de l'icône sur d'autres arts est patente, notamment le cinéma. Je pense au film du cinéaste russe orthodoxe Andrei Tarkovski. Et je terminerai ce quatrième point par le monachisme et les icasmes. Les moines sont comme l'avant-garde de l'Église, qu'ils ont toujours empêché de se confondre avec ce monde. Donc, ils ne sont pas complètement à part. Il existe dans l'orthodoxie un seul ordre monastique, sans autre but que la contemplation, mais avec bien des aspects qui permettent l'adaptation aux diverses vocations personnelles. De la communauté à l'érémitisme, l'errance, voire la folie simulée. La République monastique du Mont Athos, dans le nord de la Grèce, où viennent depuis 1000 ans des moines de tout le monde orthodoxe, connaît un grand renouveau. Les moines sont rarement des prêtres, mais parfois des pères spirituels, Startsi en russe, Gerondes en grec, qui ont reçu le discernement des esprits, c'est-à-dire qui peuvent guider les personnes simplement en les regardant, les voyant. Pour les laïcs, ce sont des exemples et des guides. L'axe de la vie monastique et en général de la vie spirituelle orthodoxe est la tradition hésychaste. Alors ce mot, cet adjectif grec vient du mot hésychia, qui signifie la paix intérieure. La paix, la douceur, le silence de l'union avec Dieu. L'hésychasme, art des arts et science des sciences, utilise une méthode, entre guillemets, qui comporte des aspects psychosomatiques. Ainsi, l'invocation du nom de Jésus sur le rythme de la respiration pour permettre la descente de l'intelligence dans le cœur. Je renvoie à un petit ouvrage sur le pèlerin russe qui est paru il y a plusieurs décennies et qui est très connu en Occident. J'en viens maintenant à mon dernier point, la dynamique de l'Église orthodoxe dans le monde et en France. Et tout d'abord, l'orthodoxie dans le monde. Le principe fondamental de l'organisation de l'Église orthodoxe est local ou encore territorial, c'est-à-dire un seul évêque en un même lieu, formant avec les prêtres et diacres, qu'ils nomment dans les paroisses, un diocèse. Ça, c'est quelque chose qui est commun avec le monde catholique. Les diocèses vivent leur unité autour de centres d'accord ou de communion dont les évêques reçoivent certaines prérogatives pour organiser la vie entre les églises locales et éviter qu'elles ne s'isolent. Il s'agit d'abord des métropoles pour les régions, puis des églises autocéphales, c'est-à-dire qui élisent librement leur propre primat, ou même à un niveau moins élevé des églises autonomes. Autonome, c'est-à-dire l'élection du primat est confirmée par le synode de l'église autocéphale dont dépend cette église autonome. La primauté épiscopale s'inscrit toujours dans un cadre synodal. C'est un point important qui distingue l'orthodoxie de l'église de Rome. Un primat parle toujours au nom d'un synode composé d'évêques. Il y a donc une sorte de dialectique, si vous voulez, entre la dimension primatiale et la dimension synodale, l'une renvoyant à l'autre. Les églises autocéphales peuvent coïncider soit avec des communautés de civilisation, ainsi Alexandrie pour l'Afrique, Antioche pour le monde syriaque et arabe, soit avec des communautés nationales. À l'échelle universelle, enfin, depuis le schisme du XIe siècle, c'est l'église de Constantinople, ou patriarcat écuménique, c'est-à-dire universel, dont le siège est à Istanbul aujourd'hui, qui dispose d'une primauté d'honneur et d'un rôle d'initiative et de coordination pour l'ensemble de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe comprend aujourd'hui les quatre patriarcats anciens que vous avez sur vos cartes, donc dans l'ordre d'honneur, Constantinople, Alexandrie, Antioche. Aujourd'hui, le siège n'est plus à l'Antioche qui se trouve en Turquie, mais à Damas. Et puis Jérusalem, et enfin, une série de patriarcats qui se sont élevés à l'époque moderne. Donc d'abord le patriarcat de Moscou en 1589, puis les patriarcats de formation plus récente, de Serbie en 1920, de Roumanie en 1925, de Bulgarie en 1953, l'église de Géorgie dont les origines remontent au IVe siècle, ainsi que les églises autocéphales suivantes, dont le primat porte, pour des raisons historiques, le titre d'archevêque ou de métropolite, mais pas de patriarche. Les églises donc, de Chypre, qui elle est autocéphale depuis 431, vous voyez c'est extrêmement ancien. L'église de Grèce en 1850, l'église d'Albanie en 1937, puis supprimée par le pouvoir communiste, et ressuscité en 1990, l'église de Pologne en 1924, et enfin l'église de Tchéquie et de Slovaquie en 1998, soit en tout 14 églises autocéphales. Il existe encore des églises autonomes au sein de plusieurs patriarcats. Les églises de Finlande et d'Estonie, dans le patriarcat œcuménique, et l'église du Japon, au sein du patriarcat de Moscou. Une mention spéciale doit être faite de l'orthodoxie de la diaspora, c'est-à-dire des communautés qui se trouvent hors des frontières canoniques des églises traditionnelles, en Europe occidentale, en Amérique ou en Australie, où les communautés orthodoxes se sont implantées à vaste échelle à partir du XXe siècle. Là, les diocèses sont encore trop souvent fondés sur des critères nationaux et dépendent de leurs églises d'origine, en coexistant tous sur les mêmes territoires, ce qui est en principe interdit par le droit canon orthodoxe, car en un lieu donné, l'Église doit, par principe, manifester son unité à travers un unique évêque. Des structures de coordination se sont établies peu à peu au niveau des épiscopats dans différents pays, ce sont les assemblées épiscopales orthodoxes. Il faut évoquer maintenant ce qu'on appelle la dynamique pan-orthodoxe et conciliaire. L'adjectif pan-orthodoxe qualifie un processus de prise de conscience de la nécessité de manifester de manière plus concrète l'unité spirituelle qui rassemble tous les orthodoxes, pan-orthodoxes, tous les orthodoxes. La longue histoire de l'orthodoxie, en effet, a été marquée par des clivages, comme vous l'avez compris, avec les invasions arabes, mongols, turcs, les croisades, les guerres d'indépendance, la révolution russe, les persécutions des régimes athéistes au XXe siècle. Il en a résulté une coupure entre les différentes composantes de l'orthodoxie. Et donc, des tensions et des crises à répétition pour se retrouver. Toutefois, à partir de 1961, le patriarcat œcuménique a lancé un processus, relancé plutôt un processus qui datait des années 1920, visant à préparer un grand concile sur les problèmes communs, ce qui a permis de réunir des grandes conférences panorthodoxes dans les années 60 et puis une série de conférences préconciliaires jusqu'en 2015. Et finalement, un grand concile s'est réuni en Crète en juin 2016. Mais il n'était pas tout à fait panorthodoxe puisque manquaient à l'appel quatre grandes églises, en tout cas quatre églises orthodoxes autocéphales, le patriarcat d'Antioche, les patriarcats de Bulgarie et de Géorgie, et surtout le patriarcat de Moscou, l'église la plus importante numériquement. Les raisons, c'est que le patriarcat d'Antioche se trouve depuis quelques années dans un conflit de juridiction avec celui de Jérusalem. Les églises de Bulgarie et de Géorgie sont minées par le fondamentalisme qui résulte de la longue persécution communiste et de leur isolement, et elle reprochait au texte proposé au Concile d'être trop écuméniste, trop ouvert à l'Occident chrétien. Enfin, l'Église russe était réticente à suivre le projet guidé par Constantinople. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait venir en Crète puisque manquerait trois églises à l'appel. Donc, puisqu'il en manquait trois, il fallait qu'il en manque quatre. Le Concile s'est tout de même réuni et il a adopté des documents sur six grands thèmes en rapport avec la vie pastorale. Ce concile n'a certes pas réuni toutes les églises autocéphales, mais il n'est qu'une séquence, je dirais, du long film sur le chemin de l'unité panorthodoxe. Les églises présentes ont aussi tendu la main aux absentes en leur rappelant que dans de nombreux pays, l'œcuménisme était une question de survie pour l'orthodoxie. Enfin, une grave crise affecte les relations entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople depuis avril 2018. Constantinople a décidé d'accorder l'autocéphalie au patriarcat de Kiev, une église orthodoxe, donc comme vous l'avez compris en Ukraine, qui s'est autoproclamée après l'indépendance du pays en 1991 et qui n'était jusque-là reconnue par aucune autre église orthodoxe dans le monde. Cette décision pourrait mettre fin à 330 années de tutelle religieuse russe dans le pays. Moscou a déclaré rompre la communion avec Constantinople le 15 octobre dernier. Vous voyez, c'est tout récent. Le contentieux ecclésiologique est aussi politique et identitaire. La reconnaissance par Constantinople de l'Église ukrainienne est considérée comme celle de la nation ukrainienne et elle est perçue par Moscou comme un soutien du patriarcat œcuménique au nationalisme ukrainien. Selon les Russes, la conversion du prince de Kiev, Vladimir le Grand, au christianisme byzantin, donc en 988, à Khersonèse, aujourd'hui Sébastopol, est considérée comme le baptême de la Russie, alors qu'il s'agit, selon Kiev, de l'acte fondateur de la nation ukrainienne. En fait, vous voyez, le conflit entre Russes et Ukrainiens n'a, d'un point de vue historique, pas de sens, puisque à l'époque, il n'y avait pas de Russes et d'Ukrainiens, il y avait la Rousse avec des Slaves. Depuis 1991, trois églises orthodoxes se répartissent dans l'Ukraine, 65% donc de la population ukrainienne, qui représente en tout 45 millions, ce qui correspond à environ 29 millions de fidèles orthodoxes. L'Église autonome d'Ukraine, patriarcat de Moscou, réunit 25% des orthodoxes du pays. Cette église auto-administrée est l'héritière de l'ancienne métropole de Kiev, qui fut rattachée à Moscou en 1686, comme je vous le disais tout à l'heure. En 1991, des membres du clergé ont quitté cette église, dont le métropolite de Kiev lui-même, Filaret, pour fonder une église nationale, appelée Patriarcat de Kiev, qui jusque-là n'était reconnue par personne. Filaret donc est devenu patriarche en 1995 et a été excommunié par Moscou. Cette église, jusque-là schismatique, est désormais reconnue par Constantinople et elle réunit, selon les estimations, 40% des fidèles. Donc vous voyez, c'est la plus importante au plan numérique pour l'instant. Une troisième église, l'église autocéphale ukrainienne, fondée en 1921, à l'époque de l'indépendance de l'Ukraine, qui a duré 2 ans, si ma mémoire est bonne, pendant la guerre civile, compte environ donc 3% des orthodoxes ukrainiens. Il n'y a pas de critère territorial parmi ces églises, bien que l'église autocéphale ukrainienne dispose surtout de paroisses dans l'ouest du pays. Pour la Russie, l'autocéphalie ukrainienne représenterait la perte de 29 millions de fidèles et de 12 000 paroisses, ce qui entraîne aussi des conséquences financières fâcheuses. Et puis aussi la perte de lieux de culte et de monastères de grande renommée. Je passe maintenant à mon dernier point, l'Église orthodoxe en France, une situation micro-minoritaire. La présence orthodoxe en France date de 2 siècles. En 1816, une chapelle orthodoxe russe fut ouverte à Paris, rue de Berry, dans le 8e arrondissement. Puis, en 1821, à Marseille, une chapelle orthodoxe est ouverte pour la communauté grecque locale, les anciens grognards de Napoléon, dont beaucoup étaient grecs. Toujours à Marseille, en 1834, est construite une église orthodoxe grecque. Pour des raisons d'abord politiques et également économiques, au XXe siècle, beaucoup d'orthodoxes ont émigré en Occident. Et pour la France, une importante diaspora grecque, roumaine, serbe et surtout russe, augmentée de fidèles de souche, a permis une meilleure connaissance mutuelle entre orthodoxes et chrétiens occidentaux. L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, fondé en 1925 à Paris, reconnu dès 1932 par l'Académie de Paris comme établissement d'enseignement supérieur privé, a dès le départ cherché à rassembler tous les orthodoxes. Il propose un cycle licence master doctorat de théologie orthodoxe et une formation à distance avec des examens et présentiels réguliers. Les paroisses jouent en France un rôle essentiel, sociologique et spirituel, pour rassembler les fidèles de différentes origines. L'insertion dans la société occidentale a entraîné l'apparition de paroisses qui célèbrent les offices en français. De nombreux ouvrages concernant la pensée et la spiritualité de l'orthodoxie existent en français. Je vous en ai indiqué 2 ou 3 dans la bibliographie. Peu à peu se fait la prise de conscience de l'universalité de l'orthodoxie, dans une perspective de témoignage et de partage, d'abord avec tous les chrétiens. Divisée en juridictions qui dépendent des églises traditionnelles d'origine, la diaspora oscille entre un conservatisme national et la formation encore timide d'une église locale. Un effort d'unification s'est ébauché avec la formation d'une instance de concertation entre les évêques orthodoxes. C'est d'abord un comité interépiscopal qui a été créé en 1967, et puis en 1997, une assemblée des évêques orthodoxes de France, l'AEOF, qui a son site internet, qui est présidée par le métropolite du patriarcat écuménique, Monseigneur Emmanuel, que vous rencontrerez peut-être.
Absolument.
Voilà. Donc c'est un personnage important au sein du patriarcat écuménique, indépendamment de l'orthodoxie française, parce que c'est un peu le chef de la diplomatie du patriarcat écuménique, et c'est lui qui s'est occupé des affaires ukrainiennes notamment. Et donc cette assemblée des évêques orthodoxes de France comprend 11 autres évêques des différents diocèses, donc c'est-à-dire le patriarcat écuménique, mais également le patriarcat de Moscou, de Bulgarie, de Roumanie, d'Antioche, de Serbie et de Géorgie. Et je terminerai par quelques données générales. Nous estimons, il est difficile d'avoir des chiffres précis, puisque officiellement on ne fait pas de statistiques religieuses, comme vous le savez en France, malheureusement. On estime à environ 500 000 la population installée, population orthodoxe installée en France, donc orthodoxe de différentes origines. Il existe environ 280 lieux de culte disséminés dans toute la France, dont une vingtaine de communautés monastiques. Et il y en avait 238 en 2010, donc une certaine progression. Il existe une association loi 1901, association informelle, qui s'appelle la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et qui regroupe des clercs et des laïcs de différentes juridictions qui œuvrent depuis 1970 pour donner un témoignage commun de l'orthodoxie dans l'attente que celle-ci reçoive une organisation canonique unifiée. Des congrès triannuels sont organisés par cette fraternité, donc depuis 1971. Le dernier congrès, le 16e, s'est tenu début novembre 2018, donc c'est tout récent, à Manosque, sur le thème « Vous serez mes témoins », avec plus de 500 participants et une table ronde écuménique avec donc des représentants des églises catholiques et protestantes. Il existe une revue trimestrielle de théologie et de spiritualité, la revue Contact, créée en 1949. Des émissions pour la télévision, donc l'émission Orthodoxie, émission mensuelle sur France 2. L'Orthodoxie ici et maintenant, sur KTO, qui a été lancée en 2012. À la radio sur France Culture Orthodoxie, qui est diffusée depuis 1964, au rythme bimensuel. Et sur Radio Notre-Dame, Lumière de l'Orthodoxie, qui propose un rendez-vous hebdomadaire depuis 2012. Et enfin, le réseau RCF, qui diffuse aussi des émissions orthodoxes. Un site diffuseur d'informations spécialisé sur l'orthodoxie, c'est le site orthodoxie.com. Et je terminerai par une note prudente à propos d'une marge sectaire mal identifiée et diversifiée qui utilise abusivement le nom d'orthodoxie ou d'église orthodoxe que vous pouvez trouver ici ou là en prétendant relever de patriarcat ou d'évêque, je dirais, assez fantaisiste. Donc les imposteurs et les escrocs pullulent et il faut toujours vérifier lorsqu'on a affaire à un évêque soi-disant ou à un prêtre orthodoxe, il faut toujours simplement demander le nom de son évêque ou de quelle église autocéphale relève cet évêque, et vérifier tout de suite sur le site de l'AEOF si cette juridiction est bien affiliée à l'AEOF. Je conclurai plus positivement en soulignant que l'Église orthodoxe est aujourd'hui présente sur tous les continents et la rencontre de l'orthodoxie et de l'Occident grâce notamment aux différentes diasporas orthodoxes, constitue un des grands événements spirituels de notre époque. L'orthodoxie en France témoigne en général d'une église ouverte, au moment où tant d'églises territoriales orthodoxes accentuent le repli et le ritualisme par contre-coup, on pourrait dire, de la mondialisation. La tradition orthodoxe demeure la gardienne de trésors spirituels, artistiques et liturgiques qui remontent aux sources mêmes du christianisme. Et la vitalité des communautés orthodoxes, en particulier sur le sol français, est pour les autres chrétiens un témoignage de la réalité de l'Église qui transcende les divisions. Non seulement l'orthodoxie peut inspirer et enrichir les chrétiens d'Occident, mais à l'inverse, les orthodoxes, eux aussi, reçoivent beaucoup de la part de l'Occident chrétien. Le dialogue entre les deux poumons de la chrétienté doit donc se poursuivre dans la quête patiente d'un retour à l'unité visible, sans que ce retour signifie une fusion entre ces deux pôles respectifs. Je vous remercie.